qui peut fonder un appel. Il ne lui demande pas « Es-tu capable ? Es-tu compétent ? Ou est-ce que tu ne renieras encore ?» Il lui demande seulement « Pierre, m'aimes-tu ? » Et la réponse de Pierre, nous la connaissons. « Tu sais tout, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. » J'ai pensé à la célèbre prière du curé d'Ars que vous connaissez sans doute, que j'ai prié longuement et longuement, surtout quand j'étais jeune prêtre, mais peut-être qu'en vieillissant, il ne faut pas l'oublier. Je vous aime, mon Dieu, mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer, ô mon Dieu. Si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, et de vous aimer en souffrant, et d'exprimer un jour en vous aimant, et d'expirer un jour en vous aimant, et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. L'autre choix à renouveler fondamental, c'est choisir d'être ensemble, parce que Dieu nous le demande. Autour de l'évêque que je suis, comme successeur des apôtres, d'évêque en vertu de sa consécration épiscopale et par sa communion avec le collège des autres évêques et sa communion en successeur de Pierre, des principes visibles et garants de l'unité de l'Église particulière, nous enseigne le Concile Vatican II. C'est pour ça que nous concélébrons ensemble et avec l'évêque. Avec les prêtres collaborateurs de l'évêque, avec les diacres, nous sommes au service du peuple de Dieu et tous ensemble au service de la mission du salut dans le Christ. Je vous rappelle la formulation du pape Benoît XVI, ce ne sont pas les baptisés qui sont au service de la mission des prêtres, mais les prêtres, l'évêque, qui sont au service de la mission des baptisés. Dans sa providence, le Seigneur nous a mis ensemble, nous a donné les uns aux autres pour prendre soin les uns des autres et servir ensemble. Nous ne pouvons rien faire de véritablement fécond les uns sans les autres. Prendre soin les uns des autres pour nous aider sur ce chemin, dans quelques mois, dans les mois qui viennent, sera proposé à ceux qui souhaitent un temps de relecture de notre ministère. Et pour ce faire, un document préparé par le chantier vie et ministère des prêtres et par le conseil presbytéral vous sera adressé à tous dans les semaines qui viennent. Le Seigneur nous a choisis et appelés chacun d'entre nous selon des critères qui nous échappent, selon sa miséricorde. Ce que dit saint Paul s'applique à chacun de nous, baptisés et ministres ordonnés. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Ainsi, on voit que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Et lorsqu'il fait allusion à cette fameuse écharpe dans la chair, dont nous n'avons pas cherché à savoir de quoi il s'agit. Ça ne nous regarde pas. Il dit, vous le savez, pour empêcher qu'il se surestime, il dit. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car sa puissance donne toute sa mesure dans mes faiblesses. » Nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Supplions par l'intercession de tous les saints du diocèse et saintes qui nous ont précédés, le saint Julien ou bienheureux Basile Moreau, sa grâce pour qu'elle nous soit accordée. Alors nous vivons une période de la vie de l'Église à bien des égards, vous le savez, difficile et douloureuse. Je pense à la lumière faite sur les abus sexuels envers les mineurs, mais pas seulement, les abus de pouvoir dans l'Église, la lumière faite grâce au courage des victimes qui ont parlé. Vous le savez, les évêques de France veulent aller jusqu'au bout de ce travail de vérité douloureux pour nous tous et salutaire. Cette conversion profonde nous concerne tous. Je vous invite à lire la lettre que les évêques de France viennent de publier, adressée à tous les fidèles, ainsi que la lettre adressée aux prêtres et aux diacres. En préambule de cette lettre, il y a une citation du pape François que je vous lis. « Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et de sauver notre réputation. Aide-nous à porter solidairement la faute et à rechercher des réponses humbles et concrètes en communion avec le peuple de Dieu. Notre monde aussi vit une période difficile liée à l'épidémie du Covid-19 qui nous a ramenés à notre vulnérabilité. Mais il ne s'agit pas seulement de l'épidémie, nous le savons. Le monde est traversé par l'inquiétude, beaucoup de nos contemporains sont désorientés par la situation qui les entoure, angoissés face aux défis écologiques, mais aussi face à l'émergence de la violence. Souvenons-nous des attentats du début de l'année, nous oublions vite, il y a quelques mois, de la violence entre adolescents, face à la précarité aussi, face à la confusion éthique, face à l'irréel véhiculé par les réseaux sociaux. Beaucoup ont peur de l'avenir et sont tentés par la désespérance. Nous vivons un temps de purification et d'appel de profonde conversion. Nous vivons un temps d'arrêt qui nous est imposé. Ce temps de remise en cause est douloureux pour beaucoup, peut-être destructeur, mais il est peut-être aussi une chance. Chance pour une conversion personnelle, ecclésiale et sociétale. Je suis persuadé que nous vivons des temps décisifs, dit le pape François. Ce temps est une chance, temps où l'Esprit Saint parle et agit. Le Seigneur nous demande d'oser avancer avec une exigence évangélique plus grande, une simplification aussi. Nous n'avons pas de réponse toute faite, mais nous sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous ignorons encore l'existence. Un autre synode diocésain sur la vie de nos communautés paroissiales, les orientations synodales sont un chemin ouvert sur l'avenir. Ces orientations, je le sais, nécessiteront du temps pour être bien comprises et pour que nous les mettions en œuvre, car il ne s'agit pas d'abord de structures à mettre en place, mais d'une dynamique de conversion pastorale pour que nous devenions ensemble, plus encore, de véritables disciples missionnaires et soient un chemin ouvert par l'action de l'Esprit Saint. Je vous en rappelle quatre fondamentaux, la conscience plus vive de notre vocation baptismale, la place fondamentale de la parole de Dieu, la centralité des plus pauvres et des plus fragiles, la fraternité, avec le développement de petites fraternités locales. Notre mission est d'annoncer dans le monde tel qu'il est, le monde réel, l'espérance et la joie du salut par le rayonnement de la charité. Nous n'avons pas d'identité à défendre, mais à vivre. Nous rappelons que le Seigneur est venu pour les malades et les pécheurs que nous sommes. Le pape François a souhaité que cette année soit dédiée à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, Joseph époux de Marie, père adoptif de Jésus, patron des travailleurs. Il est pour nous tous, prêtres, diacres, baptisés, consacrés, un modèle particulièrement lumineux dans la situation actuelle. Nous pouvons trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un soutien, un guide dans les moments difficiles. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Il est un maître de vie intérieure. Joseph est celui à qui Dieu parle. Joseph est capable d'entendre ce que Dieu lui dit. C'est un cœur qui écoute, un cœur qui veille. Joseph est celui qui entre dans la volonté de Dieu. Il est conduit là où il ne pensait pas aller. en accueillant Marie, son épouse qui porte en elle le Fils de Dieu, mais aussi en se laissant conduire en Égypte, terre d'exil. Joseph est l'homme de la disponibilité. La disponibilité est le critère de sa vie. Il est conduit même là où il ne voulait pas aller. Toute sa vie est une succession de chemins acceptés, reçus de Dieu. Il se place entre les mains de Dieu, se défiant de sa volonté propre. Il est l'homme de la confiance en Dieu. Ultimement, Joseph est celui qui est dépossédé de lui-même. Il ne réalise pas son projet propre. Il est conduit au-delà de lui-même pour participer au salut du monde. Enfin, je vous propose un passage particulier comme programme des mois à venir. Pas très original. C'est la parabole du bon samaritain. Vous savez, le bon samaritain, c'est Jésus lui-même, Dieu qui s'est approché de l'homme blessé et de l'humanité pour en prendre soin. J'ai été marqué par le commentaire du pape François que par en fait ce passage dans sa lettre Fratelli Tutti. La parabole commence par une allusion au brigand, dit-il. Un jésuite n'oriente pas notre regard vers les brigands. Vous savez, nous pouvons toujours être tentés d'aller régler leur compte aux brigands. On va leur... La parabole nous fait poser le regard aussi sur ceux qui passent outre. Mais là non plus, Jésus ne s'attarde pas sur eux. Nous pouvons être tentés d'accuser ceux qui sont restés indifférents ou ceux dont nous pensons qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Toute son attention, toute sa sollicitude est pour l'homme blessé sur le chemin. L'homme blessé, c'est aussi nous. Laissons Jésus, bon samaritain, nous soigner, mais plus radicalement, nous sommes invités à imiter le Christ, à être avec lui, figure du bon samaritain, à notre centre d'attention, notre cœur. Il l'est déjà, je pense. Doivent être tournés vers les hommes et les femmes blessés, abandonnés sur le bord du chemin. Alors laissons-nous consoler par le Christ et qu'il nous accorde d'être manifestation de la tendresse de Dieu, de sa bonté pour l'humanité. Demandons cela ensemble alors que nous allons bénir et consacrer les huiles saintes. Et que nous allons renouveler les promesses que nous avons prises le jour de notre ordination.